Radio Campus Paris.
Bonsoir, il est 18h, nous sommes le lundi 21 mars et oui, c'est le printemps. Vous écoutez Radio Campus Paris en FM 93.9 ou sur le web et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
La relève au printemps comme en hiver, c'est toujours 30 minutes avec de jeunes talents d'hier et d'aujourd'hui, enfin plutôt d'aujourd'hui et de demain, je me mélange au printemps comme en hiver d'ailleurs. Aujourd'hui donc on va parler d'un président, de Verdun, de théâtre, d'actualité. Mes invités sont comédiens. Et je n'ai pas leur talent d'improvisation. Bonjour Julien Compagnie et Léo Cohen.
Bonjour.
Alors, vous êtes tous les deux auteurs de Vie et mort de Jacques Chirac, roi des Français. Léo, vous êtes aussi le metteur en scène, si je ne me trompe pas. Et Julien, vous incarnez Jacques Chirac sur la scène du théâtre de Belleville pour quelques dates encore jusqu'à la fin du mois, c'est ça, fin mars ?
Jusqu'au 31 mars, oui.
Alors, avant toute chose, avant de vous lancer dans cette aventure, quelle image aviez-vous l'un et l'autre de Jacques Chirac ?
On est parti d'un... Je pense qu'il y avait une image commune due à notre génération qui était qu'enfant, enfin moi en tout cas enfant, j'ai beaucoup vu les marionnettes des Guignols de l'Info. Et ensuite j'ai un souvenir assez précis, j'étais allé avec mon père quand j'étais petit au salon d'agriculture et je me rappelle de l'avoir vu entouré par une grande nasse de journalistes et d'avoir vu juste sa main qui dépassait en brandissant quelque chose, donc j'avais quand même ce souvenir d'une main qui sortait au milieu d'une mer d'une meute plutôt de journalistes. Voilà, c'était mon premier souvenir d'enfance avec Jacques.
Julien ?
Moi, c'est pas aussi précis que ça, mais en effet, c'était plutôt la figure politique majeure pour moi, puisque j'étais enfant quand il a été élu président, et que c'était vraiment toute l'enfance, toute l'adolescence, le début de la prise de conscience politique, voilà, tout ça, c'est... Puis évidemment, la télé, qui était quand même un meuble fondamental pour notre génération. Ouais.
Vous avez tous les deux, on en reparlera un peu plus tard, mais vous avez comme projet de faire une série sur les 8 présidents de la 5e République. Je voulais savoir pourquoi vous aviez commencé avec Jacques Chirac.
Précisément pour ce qu'a dit Julien, je crois, c'est-à-dire que c'est le président de notre enfance, c'est la première chose, et... Il faut savoir qu'il y a eu une rencontre aussi très très forte entre Julien et le rôle qui a permis l'écriture de cette pièce. En fait, il y a 5 ans, on a fait un spectacle qui s'appelait « Le jour de gloire est arrivé » et dans lequel et qui représentait tous les présidents de la 5e de Gaulle à Hollande à l'époque. Et Julien y interprétait Jacques Chirac et pendant 10 minutes, un quart d'heure dans le spectacle. Et il y a eu un moment de grâce comme ça, une rencontre avec le rôle et que je lui ai proposé ensuite de poursuivre. Et ensuite, on a eu l'idée de cette série sur les présidents de la 5e République.
C'était quoi ce moment de grâce, Julien ? Expliquez-nous. Vous n'en avez pas rendu compte peut-être ?
J'étais le premier surpris quand on est acteur. On rêve de peut-être parfois de s'écrire des choses, d'inventer de nouveaux spectacles, de nouvelles pièces, mais on a plutôt des figures tutélaires, des figures de modèle, et Jacques Chirac, c'était pas vraiment une figure tutélaire. Et quand Léo m'a proposé ça, en fait, c'était un cadeau complètement surprenant et magnifique, parce que voilà, les personnages les plus intéressants, c'est pas forcément les gens qu'on admire le plus. En général, c'est les gens les plus complexes, les plus contradictoires. Et ce personnage-là, Dieu sait s'il était riche et contradictoire.
Alors, vous, comme je l'ai dit au début, vous avez aussi écrit le spectacle, tous les deux. Comment on fait pour travailler sur un personnage qui est déjà historique, mais qui est aussi proche de nous, finalement ? Est-ce que vous n'aviez pas trop d'informations pour le faire ?
Beaucoup trop. Beaucoup trop d'informations. Et la première scène du spectacle avec ces deux acteurs qui propose un très long spectacle sur la vie de Jacques Chirac. Au fond, c'est peut-être le rêve de tout ce qu'on n'a pas pu faire ou tout ce qu'on a rêvé de faire, que ce soit une heure, un jour ou un mois, sur lui. Mais oui, effectivement, il y a un travail de documentation assez important. Et ensuite, tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver le point de vue qui fait sens dans la manière d'aborder ce personnage, parce qu'en fait, au fond, faire un spectacle sur Jacques Chirac, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de parler justement du rapport qu'on a à ces gens-là, et comme Ludovic Müller, le personnage du spectacle, de rapport d'amour, puis de trahison, de haine, et tout ce qui se glisse dans le rapport à un politique. C'est l'expression d'une vision politique d'un citoyen.
En vous écoutant, j'allais vous demander, est-ce que finalement c'est vraiment une pièce sur Jacques Chirac ? On va beaucoup parler de Jacques Chirac là pendant une demi-heure, mais est-ce que c'est vraiment une pièce sur lui ?
Bah, on espère que ça n'est voit, pas mais... qu'une pièce sur lui. En effet, c'est quand même une pièce sur Jacques Chirac qui prend comme sujet central Jacques Chirac, qui essaye d'en faire un portrait dans tout ce que ça peut avoir aussi d'amoral, de poétique, voilà, l'art du portrait. Mais en effet, en parlant de Jacques Chirac, on parle aussi de 50 ans de vie politique en France. On parle, nous, on a choisi, parce que c'est un peu notre obsession, qu'est-ce que c'est que la question du populaire, donc le vote populaire, la culture populaire. Mais il y a plein d'autres questions en creux. Il y a l'histoire de la droite, il y a l'histoire de la gauche, il y a l'histoire du rapport à l'Europe, il y a l'histoire de notre génération vis-à-vis de la politique, il y a l'histoire de la Ve République. Enfin, c'est vrai, voilà, on traverse 87 ans de vie à travers Jacques Chirac, mais on espère qu'on passe à travers lui, en effet.
Pierre Péan, dans les sources que vous donnez de votre spectacle, dans le document qui a mis au spectateur, Pierre Péan, qui est un journaliste écrivain qui avait publié L'Inconnu de l'Élysée, un livre sur Jacques Chirac, il écrivait à l'époque que c'était l'homme politique le moins bien connu des Français. Et en voyant votre spectacle, on en est presque convaincu. Alors est-ce que ça aussi, même s'il y avait beaucoup, est-ce que ce n'était pas un atout pour vous? Parce que finalement, vous pouviez vous glisser dans toutes ces interstices, dans tout ce qu'on ne sait pas finalement de ce personnage.
Oui, oui, c'est la question du masque qui est soulevée pendant le spectacle. Je pense que c'est précisément à cet endroit que Julien a rencontré le rôle. C'est-à-dire que, enfin, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je pense que c'est sur cette question justement de... du masque. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le masque? Qu'est-ce que c'est d'être soi et seulement soi? C'est là-dessus que ce personnage est intéressant, parce que paradoxalement, enfin, de l'extérieur, j'ai envie de dire, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ça, paradoxalement, qui peut développer aussi une empathie chez les gens. C'est que les personnages qui savent bien qui ils sont, on peut pas aimer François Mitterrand comme Jacques Chirac, par exemple, parce qu'il est beaucoup trop monarchique. Ouais. Parce qu'il sait beaucoup plus qui il est, je pense, que pour plein de raisons que Chirac. Enfin, en tout cas, c'est la perception qu'on en a. Mais...
Et vous, justement, comment vous l'avez trouvé, Julien, Jacques Chirac? Parce que on parlait tout à l'heure des archives. Vous deviez ployer sous toutes les imitations. Le truc, c'était de faire tac-tac le truc bébé de show ou les guignols. Non,
c'était ça qui était passionnant en tant qu'acteur. C'est vrai qu'il a tellement été imité et caricaturé que qu'est-ce que c'est que mon boulot à moi derrière? C'est justement pas ça, que je respecte énormément l'art de la caricature, c'est un art merveilleux, mais moi je suis un acteur, donc j'imite pas, j'essaye d'incarner. Donc qu'est-ce que ça veut dire incarner? C'est-à-dire... observer un corps, une voix, une âme se déployer dans une voix, dans un geste, et sans essayer en essayant de la comprendre, en essayant de l'aimer, quelle que soit ma vision de l'homme politique ou de l'homme en particulier, j'essaye de correspondre le plus possible à un être humain comme on jouerait un personnage du répertoire.
Ce que vous trouvez très bien, je trouve, c'est sa maladresse physique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez travaillé.
Moi, je suis complètement fasciné par son corps. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il est grand, il est généreux, il est large. Et en même temps, tout est toujours comme retenu. C'est-à-dire que c'est ça qui est complètement passionnant à jouer. C'est qu'on a l'impression qu'il pourrait s'envoler et qu'il pourrait tout dévorer, tout manger, tellement il est puissant et large. Et en même temps, c'est comme s'il avait toujours des espèces de bâtons qui lui serraient les muscles et qu'il ne pouvait pas totalement déployer. C'est une espèce de Gaulle pantinisé. Enfin, c'est assez... Je ne sais pas comment le dire.
Ouais. On va écouter un extrait d'un journal télévisé de cette époque-là. Je voulais vous proposer un extrait d'Yves Michaud qui parlait sur le discours de Jacques Chirac, mais on n'en trouve pas, donc je vous ai trouvé un extrait du journal télévisé. C'est David Pujadas sur le journal de France 2 il y a quelques années.
Voilà, dernier grand chapitre de cette intervention, très attendu lui aussi, la confrontation entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Eh bien, le chef de l'État a voulu réaffirmer son autorité assez sèchement, vous allez l'entendre. Le patron, c'est moi, dit-il en substance. Véronique Saint-Olive, Francis Forget.
Main dans la main, Nicolas et Cécilia Sarkozy, accompagnés de sa fille Jeanne, sont parmi les tout premiers invités à fouler le tapis rouge de l'Élysée. Et pendant près d'une heure, le plus populaire des ministres du gouvernement se répand en amabilité.
Jeanne, tu nous prends la photo?
Parfait.
Merci. Merci. Hein.
Le sarco-show fait recette, mais le ministre des Finances, qui n'a pas dit un mot politique, s'éclipse quelques secondes avant l'interview du président de la République. Quelques minutes plus tard, dans son bureau, le président de la République marque son autorité.
Il n'y a pas de différend entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute.
Divergence sur le budget de la défense, polémique sur la présidence de l'UMP, Jacques Chirac tacle Nicolas Sarkozy.
Je ne vois pas pourquoi on fait d'une polémique qui me paraît beaucoup plus inspirée par des raisons de politique avec un petit p que par des raisons de défense de l'intérêt général. Je ne laisserai pas les ambitions ou les calculs des uns ou des autres, ici ou là, venir perturber l'action des 3 années à venir.
La charge est violente, mais sur la pelouse, le Premier ministre applaudit.
Voilà, on va reprendre l'antenne parce que quand c'est Jean-Pierre Raffarin, c'est tout de suite moins intéressant. Quand vous entendez, je l'assume, hein. Quand vous l'entendez là, vous le reconnaissez tout de suite. Oh, ouais, il a vraiment un ton particulier, une scansion.
Ah bah oui, ça c'est sûr que... Oui,
il y a un débit.
Oui, ça c'est sûr.
Alors dans la pièce, il y a un moment où Pierre Juillet, qui est un conseiller important dans le parcours de Jacques Chirac, l'entraîne au vu d'un débat télévisé avec Georges Marchais, le responsable du PC d'ailleurs. Et il lui dit quelque chose comme « ferme ton livre d'histoire et entre dans la vie ». Et je me suis demandé si c'était ce que vous aviez voulu faire, vous.
Oui, bah c'est exactement ça. C'est arriver à trouver un moyen d'en faire un être sensible, pensant qu'il va à l'assaut des spectateurs, là, en l'occurrence, mais... Je pense aussi que, enfin, ce qui nous avait frappé, je me souviens, même si c'est loin maintenant, quand on écrivait, c'était comment est-ce que la figure de Jacques Chirac, son visage, se métamorphosait avec les ans. Et ce qu'essaye de faire Julien, et ce que je trouve passionnant, c'est ça, c'est qu'on le voit réellement s'épaissir et vieillir devant nous. C'est-à-dire qu'on voit, quand on est jeune, on surjoue ce qu'on est. Je trouve que c'est très très visible avec Jacques Chirac, il surjoue ce qu'il est. Et puis au bout d'un moment, le masque, l'être à la ville et l'être à la scène se rapprochent. Un peu comme un vieil acteur. C'est ce que j'aime bien dans ce que fait Julien dans le spectacle, c'est qu'on voit comme un acteur vieillir devant nous, et c'est ça qui est assez émouvant. C'est qu'on se dit, ah oui, il y a quelque chose de moins velléitaire ensuite. On laisse couler plus les choses. Et c'est ça que je vois, moi. Voilà.
C'est ce que vous voulez faire ?
Ah bah oui, je pense que quand on transforme un personnage réel en personnage de théâtre, on quitte, enfin, si on est didactique ou idéologique, on appauvrit énormément les choses. Et nous, on essaye de, bah c'est pour ça qu'on essaye d'être sensuel, charnel. Enfin, voilà, le théâtre, c'est fait pour aimer. Et dans l'amour, il y a les vices et les vertus, il y a les défauts et les qualités. Et c'est ça qu'on essaye de rendre. On n'essaye pas de regarder le personnage de haut. Enfin, je plains les auteurs ou les acteurs qui regardent le personnage de haut, ils doivent être très malheureux.
Et quand même, vous, quelle est votre vision finalement ? Moi, j'ai eu l'impression, vous voyant, moi aussi, j'ai des souvenirs de Jacques Chirac, un peu plus daté que vous, puisque je suis un peu plus vieux, mais j'ai vraiment eu l'impression que celui que vous nous présentiez, c'était quasiment le président malgré lui. Si j'avais dû donner un titre à votre pièce, je l'aurais presque appelé comme ça, le président malgré lui. Et en même temps, il ne sait faire que de la politique, on a l'impression que... Mais en même temps, il ne l'a jamais vraiment voulu. C'est très surprenant.
Je pense que par comparaison avec d'autres présidents, moi, c'est personnel. Je pense que Julien aura une autre vision, mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui n'a rien produit intellectuellement, qui a interprété des partitions politiques différentes la fameuse solution intermédiaire, alors dont il parle à la fin du spectacle, entre le communisme et l'ibas, qui nous fait bien rigoler aujourd'hui, parce qu'on se dit, ah, c'est le en même temps.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a cette idée-là de... oui, d'une absence de radicalité. Moi, ce que je vois, c'est que je vois quelqu'un de très peu radical sur... c'est-à-dire que je crois pas du tout au portrait du gros droitard, un peu... mais en même temps, c'était un homme voilà, qui était dans une famille, on va dire RPR, UDF, quoi, plutôt centre-centre-droit. Et je trouve qu'encore une fois, ce qui est frappant, c'est que pour avoir travaillé sur Mitterrand...
pour la suite
qui est passé d'un bord à l'autre, mais une fois qu'il était quelque part, il y est resté. Et il a produit intellectuellement et politiquement pour ce bord-là. Je trouve que Chirac... Au fond, pour moi, c'est vraiment l'idée que la politique, c'est une affaire de technicien, de technocrate, de gestionnaire, et en même temps qu'il a ce rapport charnel, ce qui sauve tout. Mais il y a quand même cette idée de la gestion. Je crois que c'est le... Enfin voilà, c'est un président énarque. Enfin, ouais. Moi, c'est le rapport que j'ai.
Julien, à lui, sur ça ?
Oui, je pense que c'est l'art de l'adaptation, ça c'est complètement fou. Mais pour répondre plus directement, est-ce qu'il a voulu être président ? Je pense que oui, mais je pense que comme un conquérant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans la conquête perpétuelle, mais un peu comme Don Juan, une fois qu'il a consommé, peut-être que la mélancolie vient. Et ce qu'on a lu pas mal, dans, même si en effet le mystère reste entier, que c'était toujours un personnage masqué, même pour ses plus proches collaborateurs, quand il est devenu président, on raconte qu'il serait entré dans une phase mélancolique un peu particulière. C'est pour ça qu'on a parlé de roi absent ou de roi même de roi feignant à la fin, il y avait une sorte d'échappée mélancolique ou nostalgique une fois qu'il est arrivé au poste le plus désiré.
Mais la scène qu'on voit au début, elle est réelle, cette scène où il est sur le point de se marier aux États-Unis, jeune homme, ça c'est documenté, on en est sûr ? Parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a quand même une coupure initiale, il s'apprêtait à avoir une autre vie, et puis son père lui dit de rentrer, il rentre.
Oui. En fait, tout est vrai, on a juste contracté 5 ans de vie en un été. Voilà, on a essayé, on l'a romancé, mais toutes les anecdotes qu'on dit sont vraies. On a changé le prénom de la fiancée américaine pour se permettre cette contraction. Elle s'appelait Florence et on l'a appelée Anna.
Mais donc, parce que j'ai peut-être été un peu elliptique pour les gens qui écoutent.
Oui, en fait.
Plusieurs fois, il cherche à s'échapper et son père le ramène. Et en fait, il part à Alger à un moment donné. Je crois qu'il s'embarque, c'est ça, c'est là où il s'embarque pilotin. Et son père le ramène
de force.
Et je crois qu'en Amérique, il y a eu vraiment une fiancée, alors qu'il était déjà fiancé, il me semble,
à Bernadette.
Et c'est pareil, c'est toujours ce rapport entre la révolte et la soumission qui est intéressant là-dessus.
Ouais, c'est vraiment l'archétype du personnage bourgeois qui a envie d'en sortir,
oui,
et qui arrive
finalement...
pas. On est vraiment là-dedans.
Mais on l'aime pour ça, je crois.
Ouais, parce qu'il n'y arrive pas et qu'il essaye, qu'il est peut-être maladroit. En 95, il est élu président de la République. J'aurais pu vous passer Secret de Madonna, mais qui était une de ses amies, enfin, amie comme on l'est dans ce monde-là. Mais on va écouter autre chose un peu plus pop. I step off the train. I'm walking down your street again. I passed your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. Like out of space, you found some better place, and I miss you. Deserts miss the rain, and I miss you. Oh, let the deserts miss the rain.
And now you've disappeared somewhere, like back out of space. You found some better place and I miss you. Yeah. And I miss you. You found some better place and I miss you.
Si on était sur une FM des années 80, je dirais que c'était Missing, comme Jacques Chirac nous manque beaucoup. Mais on n'est pas sur une FM, donc je vais vous dire que c'est Missing de Everything But The Girl. Et c'était un titre qui est vraiment sorti entre 95, l'année de la première élection de Jacques Chirac à l'élection présidentielle.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
Et je suis toujours avec Julien Campari et Léo Cohen-Paperman pour La vie et la mort de Jacques Chirac, roi Campagny. Des Français. Comment ?
Campagny.
Et j'ai dit
Campari. Ah, ah, Campari, c'est de l'alcool qui est très bon, mais c'est pas mon nom.
Et surtout, j'ai pas le droit de faire de publicité. Et donc, il faudrait que je cite Spritz, Aperol, Suze et quelques autres. Non, non, mais bien sûr, en plus, c'est bien écrit. Hein. C'est juste le petit stress de la reprise. Hein. Donc, c'est Julien Campari et Léo Cohen-Paperman. Et on parle de La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français, au théâtre de Belleville. C'est donc du mercredi au samedi à 21h15. Tous les soirs au théâtre de Belleville, métro Belleville, c'est ça justement ?
Exactement. Ouais.
Alors, on parle donc toujours de Jacques Chirac. Tout ce que vous racontez est vrai, vous avez tout vérifié ?
Franchement, je ne pense pas que... À part ce qui est de l'ordre du délire historique...
Oui, évidemment, l'apparition de Louis XIV, ça, vous ne la certifiez pas.
Quoi que dans ses rêves, peut-être. Que... Non, non, mais je pense sincèrement qu'il y a, En fait, la plupart, comme disait Julien, la plupart des scènes politiques sont des contractions de problématiques idéologiques. Par exemple, les scènes avec Pasqua, la première, c'est sur le moment où le RPR est devenu un parti libéral, ce qui n'était pas le cas ou moins le cas avant. Donc c'est des contractions, mais sinon c'est tout, je crois que tout est vrai, vérifié.
Oui, on est parti toujours d'anecdotes vraies, après on a essayé d'en faire des choses plus métaphoriques, quoi. Il faut que tout soit plus large qu'une simple anecdote historique. Ouais.
Est-ce que des proches de Jacques Chirac sont venus voir votre spectacle ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce qu'il y a des quarts de militants RPR, ce que je vous souhaite, qui remplissent le soir, enfin ex-RPR, donc qui n'existe plus maintenant ?
Le problème des militants RPR, c'est que je ne sais pas s'ils sont en état d'aller au théâtre. Là, ouais, ceux qui étaient... Mais non, on a... Enfin, si, à Avignon, j'ai eu souvenir d'un ou deux... J'ai eu souvenir d'un collaborateur d'Henri Guénaud qui était venu, qui avait été totalement enthousiaste. Et on essaye de faire venir des gens, mais c'est pas toujours évident.
Et puis on a aussi... des gens, enfin, on vise pas un public spécialement chiracien, enfin, sinon je pense qu'on ferait pas ce spectacle. On essaie au contraire de faire une micro-métaphore de notre démocratie, et ce qui est passionnant avec ça, c'est comme notre obsession, c'est de laisser jouer les spectateurs avec nous. Il y a des gens qui nous disent « Ah, c'est génial, il s'en prend plein à la gueule, je le déteste, cet enfoiré », et d'autres qui nous disent « Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme, et c'est super parce que vous faites un portrait, il y a de la tendresse dans votre portrait, et chacun voit midi à sa porte, chacun se raconte son propre Chirac, et nous, c'est ça qu'on veut. Pour nous, c'est ça vraiment le théâtre politique.
Et vous voyez après tous les soirs les gens ? À chaque représentation, vous essayez après d'avoir un petit moment ?
C'est des spectacles qui sont propices à l'échange, donc on essaye d'attraper un maximum de gens après pour discuter, mais il y a des gens
parce que j'imagine qu'il est très fatigué après. Là, vous êtes pas sur scène.
Moi, je suis en pleine forme.
L'adrénaline, elle maintient très, très, très en forme jusqu'à 2 heures. Après, 2 heures, je tombe. Mais non, oui, c'est pour ça qu'on propose aux gens d'aller au café à côté, parce que oui, c'est déjà parce qu'on adore parler avec les spectateurs, que c'est notre théâtre, il est très, très en partage tout le temps. Mais oui, il y a plein de gens qui s'en vont parce qu'il est tard et qu'il est 23h. Mais nous, en tout cas, on boit toujours une petite bière après.
Moi, je dirais rien, c'est ce que j'ai fait. Dans vos sources de travail, vous citez les films des frères Cohen. Alors ça, je vois un peu, et surtout Fellini. Alors, Fellini, ça m'a surpris. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait ce spectacle de Fellini. Hein,
bah, pour les frères Cohen, il y a quelque chose de la beauté des losers.
Ouais.
Et pour Fellini, c'est pareil, Julien répondra à sa manière, mais je trouve que c'est le bric et le braque qui
est... Côté un peu baroque.
Ouais, Ouais, complètement.
Oui, puis traverser les miroirs, la métaphore du clown, comment on traverse les temporalités, comment on ouvre une affiche de campagne et derrière il y a une petite loge de théâtre atemporelle, comment justement on peut traverser deux mandats en cinq minutes parce qu'un personnage grandit devant nous. Puis après, voilà, oui, c'est...
Il y a une question quand même, je ne peux pas vous laisser repartir sans vous l'avoir posée. Donc il y a un moment, il y a un des personnages qui interprète Clovis Foin, qui est votre alter ego, enfin qui vous donne la réplique Julien Campagny. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci, qui représente un peu un fan de Jacques Chirac pour aller très vite et qui se met en colère et qui fait un peu son procès. Vous avez volontairement mis la lumière sur cette peut-être déception politique plutôt que de parler des affaires, parce que Jacques Chirac, pour les gens qui l'ont connu à l'époque, c'était aussi les affaires. Ça, vous en parlez assez peu, même je crois pratiquement pas.
Ça nous revient souvent. En fait, c'est évoqué à plusieurs moments dans le spectacle.
On voit de l'argent qui circule beaucoup.
Il y a des enveloppes, il y a l'idée de à travers ce chauffeur qui voit tout. Et on se dit qu'il voit aussi le business. Et voilà.
Ce que je vais vous demander, c'est est-ce que cette trahison par rapport aux électeurs vous paraît finalement plus grave que peut-être ces histoires d'argent ?
Enfin, personnellement, je pense même que... qu'on ne reproche aux politiques d'être corrompus que quand on a le sentiment qu'ils ne font pas leur travail et qu'ils nous ont trahis. Sinon, je pense qu'on peut voir la corruption. Ça, c'est mon avis personnel aussi. Je pense disons que l'obsession pour la transparence politique, elle est le fruit du moment où les politiques ont arrêté d'agir et avoir du pouvoir. Et je pense que... d'ailleurs, dans le livre de Jean-Claude Laumont, le chauffeur de Jacques Chirac, il dit beaucoup... on voyait les montagnes de fric qui circulaient au RPR. On devait fermer les armoires en fer à coups de pompe tellement les billets débordaient. Mais on se disait, c'est pour la cause, c'est pour des gens qui travaillent pour nous, pour l'intérêt général. Et c'est... Bon, c'est pas cachère ce que je dis, mais je pense qu'en fait, il faut... je pense que la trahison politique est plus grave que la corruption. Parce que je pense que le pouvoir, c'est sale, par nature. Mais voilà, ça, c'est ma vision des choses.
Comment vous est venue l'idée, vous, Léo Cohen, Paperman, donc de passer de pièces adaptées? Je regardais votre parcours, hein, Andersen, Gulliver, Dalida, au président de la Ve République. Comment? Oui, alors, Dalida, il y a un lien, ça c'est sûr, quand vous ferez Mitterrand, vous le verrez.
Ah oui, ça je l'ai eu, Jeff.
D'ailleurs, il y a un moment où Dalida embrasse Jacques Chirac dans une... Il y a une archive télé, vous verrez, si vous cherchez.
Je ne l'ai pas vu.
Ah bah, je vous l'enverrai, si vous voulez.
Je ne sais pas si tu l'as vu, Julien, moi je ne l'ai pas vu.
Je vous l'enverrai.
Non, mais
sérieusement, comment vous passez de l'un à l'autre?
En fait, c'est une histoire de parcours. Moi, j'ai 30... quel âge j'ai 33 ans. Et, j'ai commencé la mise en scène assez jeune. Et là, depuis... Et par ailleurs, je travaille beaucoup au Nouveau Théâtre Populaire où je mets en scène des classiques qui sont très importants pour... d'aller se nourrir là, parce que c'est ces grands poèmes là qui nous sont, enfin moi, qui m'ont donné envie de faire du théâtre, et mon travail est venu se fixer un peu là sur ces sujets politiques là. C'est là-dessus que j'ai envie d'ouvrir un chapitre, mais avant il y a eu des années entre guillemets de formation sur des grands auteurs. Je pense que j'aurais pas pu décider de me lancer dans l'écriture d'une série politique sans avoir exploré des grands textes classiques avant.
Julien, vous savez, celui que vous allez... Non, vous allez quitter ce personnage avec regret d'abord, je voulais vous demander.
Pour l'instant, j'y pense pas, parce que comme la chance d'avoir cette vision de la série qui s'étend jusqu'en 2027, parce que le projet, c'est de faire une grande intégrale très très longue en 2027, a priori, je vais peut-être avoir la chance de le jouer encore 5 ans. Donc je lui dis pas au revoir tout de suite, puis on a une belle tournée qui s'annonce, donc non, je suis très content.
Alors vous m'avez dit que bientôt on pourrait voir Valéry Giscard d'Estaing du 25 au 30 avril au Déchargeur. Vous êtes déjà prêt? Vous l'avez trouvé?
Alors c'est Génération Mitterrand qu'on va...
Je me suis trompé.
Qu'on va pouvoir voir du 25 au 30 avril au Déchargeur. Et on va co-écrire, je vous en prie, on va co-écrire avec Julien le Dîner chez les Français de Valéry Giscard d'Estaing, qui sera créé en octobre 23. Dans lequel Julien jouera un des membres de la famille qui reçoit le président à dîner, mais le président sera incarné par quelqu'un d'autre. Voilà.
Très bien. Vous êtes prêt pour Mitterrand?
Alors moi, je ne suis pas dans Mitterrand.
Ah, pardon.
D'ailleurs, ça a été...
En plus, il faut que je rende l'antenne, donc tout va bien.
Ça a été écrit par Émilien Dirdetoff et Léo.
Ouais. Écoutez, merci beaucoup. Ça sera au Déchargeur du 25 au 30 avril. Voilà, merci beaucoup. À vous, Julien Campagny et Léo Cohen.
Merci.
C'était La Relève, présentée, proposée par Christophe. Elle était réalisée de main de maître par Jonathan. Et puis voilà, on se retrouve nous la semaine prochaine. Et la suite du programme de Radio Campus Paris, tout à l'heure. À bientôt, bonne soirée, au revoir.